Ça fait bien et très intellectuel de croire en la théorie de l'évolution, mais on oublie ses effets pervers. C'est ainsi que de nos jours, la vie amoureuse est devenue une grande foire, un marché où chacun se vend au plus offrant. On se prête et on s'emprunte, on est avec cette personne puis avec une autre, mais les déchirures font mal, très mal. Cependant, selon la perspective biblique, le Créateur seul a des droits sur ses créatures et il est leur juge. Je continue à lire dans le chapitre 18 d'Ézéchiel. « Voici, toutes les vies m'appartiennent, celles des fils comme celles des pères sont à moi. Eh bien, c'est la personne qui pêche qui devra mourir. » Verset 4. « Dieu ne fait pas de favoritisme, il met tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est le pécheur qui mourra. » Il est ici question de mort physique. La destinée éternelle n'est pas prise en compte. Le prophète va émettre une série de suppositions. Le cas d'un père juste, le cas de son fils injuste, et enfin le cas du fils juste de ce dernier. Au moyen de l'exemple de ce père, de ce fils et de ce petit-fils, Ézéchiel va expliquer le principe de la justice divine. Je continue. Voici un homme qui est juste et qui agit avec droiture et selon la justice. Il vit en accord avec mes lois et obéit à mes commandements pour agir loyalement. Un tel homme est juste et il vivra. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Versets 5 et 9. La justice personnelle d'un homme est le fondement de son salut. Vivre désigne ici l'ensemble de toutes les bénédictions terrestres et spirituelles promises par la loi de Moïse. Mais qui est juste ? Car selon le Nouveau Testament, tout ce qu'un homme peut faire de bien ne peut pas le rendre juste devant Dieu. Sous régime de l'Ancien Testament, c'est dans la communion avec l'Éternel, fidèlement adoré, aimé et servi, que l'Israélite pouvait réaliser la justice qui est ici décrite. Il était accepté par Dieu sur la base de sa foi et de sa fidélité. Celle-ci étant évidemment déficientes, elles étaient compensées en quelque sorte par le système des sacrifices d'animaux institués par la loi. Je continue en compressant. Mais si cet homme a un fils qui est un brigand, un criminel et qui est coupable de l'une des choses mentionnées, alors que son père n'en a commis aucune, ce fils-là vivrait-il ? Non, vous dis-je, il ne vivra pas et il sera seul responsable de sa mort. Versets 10 à 13. Le fils corrompu d'un homme juste ne bénéficiera pas de clémence en raison de la bonne conduite de son père. La justice est une affaire personnelle, elle ne s'hérite pas et ne se transmet pas. Je continue en compressant. Voici un homme dont le fils a été témoin de toutes les fautes commises par son père. Bien qu'il ait vu ses fautes, ce fils ne les a pas imitées. Il a appliqué mes lois et vécu selon mes commandements. Eh bien, ce fils-là ne mourra pas pour les fautes de son père. Il vivra. Versets 14 à 17. Ce scénario s'est répété à plusieurs reprises avec les rois de Juda. L'impie Akaz, fils du pieux Jotham, fut le père d'Ézéchias, l'un des meilleurs rois de Juda. Mais ce dernier eut pour fils l'immonde et cruel Manassé, qui eut pour fils Amon, aussi mauvais que son père, mais pour petit-fils Josias, un roi pieux exemplaire. Je continue plus loin. C'est l'homme qui pêche qui mourra et le fils ne portera pas le poids de la faute de son père, ni le père le poids de la faute de son fils. À celui qui est juste, sa droiture sera portée à son compte et l'on portera au compte du méchant sa méchanceté. Verset 20. N'en déplaise à Jean-Jacques Rousseau, devant Dieu, chacun est responsable de sa conduite et nul ne peut blâmer la communauté, ses parents, ses circonstances, son patrimoine génétique ou que sais-je encore. Je continue. Si le méchant se détourne de toutes les fautes qu'il a commises, s'il obéit à tous mes commandements et agit avec droiture et selon la justice, il ne mourra pas, il vivra. Parce qu'il mène à présent une vie juste, on ne tiendra plus compte de tous les péchés qu'il a commis, et il vivra. Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant ? Demande le Seigneur l'Éternel. Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive ? Versets 21 à 23. Un changement de vie qui fait suite à la repentance efface un lourd passé. Le casier devient vierge et le compteur remis à zéro. Manassé, qui fut le pire des rois de Juda, à la fin de sa vie s'est repenti de ses crimes et Dieu lui a pardonné. Sous le régime de l'Ancien Testament, le pardon était possible parce que les sacrifices d'animaux couvraient les péchés. Ce rite anticipait la mort expiatoire du Christ qui a effacé à tout jamais la totalité des fautes commises par ceux qui sont sous l'Ancienne Alliance et qui étaient fidèles à l'Éternel, ainsi que ceux qui, aujourd'hui, acceptent Jésus comme leur Sauveur. Il faut bien savoir que c'est toujours à contre-cœur que Dieu châtie. Alors quand un pécheur se repent, c'est avec empressement qu'il lui fait grâce. Le plus grand des criminels peut venir à lui avec la certitude d'être accepté. Je continue. Mais si le juste abandonne sa droiture et se met à faire le mal en imitant toutes les pratiques abominables du méchant, pensez-vous qu'il vivra? On ne tiendra plus compte de tous les actes justes qu'il a accomplis par le passé et il mourra à cause de ses transgressions et de ses fautes. Verset 24. Un juste qui tombe et s'adonne à une vie de péché est comme la truie qui, après avoir été lavée, retourne se vautrer dans son purin. Son comportement prouve que cette justice initiale n'était pas authentique, mais une façade, ce qui fait que Dieu ne peut pas la prendre en compte. Ce ne sont pas des bonnes œuvres qui pèsent dans la balance divine, mais la disposition intérieure qui les produit. Je continue plus loin et finis le chapitre 18. Ainsi donc, je jugerai chacun de vous, gens d'Israël, selon sa conduite. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Changez donc d'attitude et détournez-vous de tous vos péchés pour que vos fautes ne causent pas votre perte. Rejetez loin de vous tous les péchés que vous avez commis contre moi. Faites-vous un cœur nouveau et un état d'esprit nouveau, car pourquoi faudra-t-il que vous mouriez, gens d'Israël? Vraiment, moi, je ne prends aucun plaisir à voir mourir qui que ce soit, le Seigneur l'Éternel le déclare. Convertissez-vous et vivez. Versets 30 à 32. Suite au discours précédent, Dieu prie, supplie même son peuple de revenir à lui afin qu'il n'ait pas à le juger. Les paroles du prophète me rappellent que Jésus a dit aux foules, « Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfait comme lui. » Facile à dire, mais comment faire? Le cœur soumis à Dieu dit « Commande ce que tu veux et donne ce que tu commandes ». Pour l'homme, faire, c'est demander et consentir à recevoir, c'est ouvrir son cœur de telle sorte que Dieu puisse lui-même faire. Nous arrivons au chapitre 19 qui est un chant funèbre dont le style littéraire est très proche du livre des Lamentations de Jérémie. Cette complainte concerne les derniers rois de Juda qui ont tous mal fini. Par l'intermédiaire de son prophète, Dieu exprime sa douleur d'être obligé de juger son peuple et ses dirigeants. Je commence à lire. « Et toi, entonne une complainte sur les princes d'Israël et dis, « Ah, quelle lionne était amère parmi les lions! Elle était étendue au milieu des lionceaux et elle élevait ses petits. » Versets 1 à 2. La lionne est le peuple de Juda, la tribu dont l'emblème était le lion. Les lionceaux sont les princes d'Israël, c'est-à-dire les rois de Juda, fils du roi Josias. Il s'agit de Joachaz, Jéhoiakim, auquel on peut adjoindre son fils Jéhoiakin, car l'identification du fils au père est permise dans un texte poétique. Le troisième lionceau est Sédécias, qui régnait quand Ézéchiel écrit ces lignes. Ce poème est une menace qui résonne contre lui. Je continue. La lionne éduqua tout particulièrement l'un d'entre eux. Il devint un jeune lion et il apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Les nations étrangères ont entendu parler de lui. Il fut pris dans leur fosse et on l'emmena en Égypte avec des crochets aux narines. Versets 3 et 4. Ce lion est Joachaz, qui fut emmené en Égypte par le pharaon Necho après seulement 3 mois de règne. Je continue. Alors, la lionne vit que toute son attente avait été déçue. Dès lors, elle choisit un autre lionceau et elle en fit un jeune lion. Cependant, les nations des pays d'alentour se mirent contre lui et tendirent sur lui leurs filets pour le prendre. Il fut pris dans leur fosse. Versets 5 et 8. Jéhoiakim, fils aîné de Josias, fut substitué à son frère par le pharaon Necho. Il commit le même genre d'atrocité que Joachaz et mourut probablement en tentant une sortie de Jérusalem assiégée. Son fils, Jéhoiakim, lui succéda, mais après seulement 3 mois de règne, il fut emmené captif à Babylone. Le châtiment du fils fut comme la clôture du règne et le châtiment de son père. Je continue plus loin. Ta mère ressemblait à une vigne plantée au bord de l'eau au temps de ton repos. Elle donnait du fruit et poussait du feuillage grâce à l'eau abondante. Il lui poussa des branches qui étaient vigoureuses et devinrent des sceptres de souverain. Sa taille s'éleva entre l'épais feuillage. Elle frappait la vue par sa grandeur et ses nombreux sarments. Versets 10 et 11. Ici commence la seconde partie de la complainte qui concerne directement le roi Sédécias. La mère, c'est la nation d'Israël. Au temps où la dynastie de David était à son apogée, elle était semblable à une vigne prospère. Les branches sont les 12 tribus d'où sortirent de nombreux dirigeants renommés. Il y eut Moïse, les chefs des 12 tribus, les juges, puis les rois. Je continue. Mais la vigne a été arrachée avec fureur, on l'a jetée par terre, le vent d'Orient l'a desséchée et ses fruits sont tombés, ses rameaux vigoureux se sont flétris, le feu les a brûlés. Verset 12. Cette image décrit la destruction du royaume de Juda par Nabuchodonosor qui est comparée au vent d'Orient. Cependant, seuls les fruits et les rameaux sont détruits parce que la souche subsiste toujours. En effet, Israël et la dynastie de David sont indestructibles en vertu des promesses de Dieu. Je continue. La voici maintenant transplantée au désert dans une terre aride sur un sol desséché. Verset 13. La belle vigne qui était Israël est dorénavant un désert parce qu'elle n'est plus une nation puissante mais un peuple en captivité. Je finis le chapitre 19. Un feu a jailli de ses branches et dévoré sarments et fruits. Il ne poussera plus de rameaux vigoureux. Plus de sceptre royal, c'est là une complainte à chanter comme telle. Verset 14. Si Jérusalem fut mise à sac et incendiée, la faute finale en revient au roi Sédécias qui a désobéi à l'Éternel. Depuis maintenant 2600 ans, Israël n'a pas eu de roi issu de la lignée de David. Quand Jésus est venu, il fut rejeté au profit de l'empereur romain. Mais un jour, il reviendra pour établir son royaume sur terre et devenir le roi des rois et le seigneur des seigneurs. En post-scriptum, Ézéchiel précise que ce qu'il vient d'écrire n'est pas un discours, mais une complainte admise dans le recueil populaire. C'est une façon d'affirmer la certitude du malheur annoncé et de pleurer à l'avance. Nous arrivons au chapitre 20 avec la dernière série de prédications d'Ézéchiel concernant le jugement de Jérusalem. Ce message est étiré en longueur parce que, jusqu'à la dernière minute, Dieu est prêt à épargner son peuple s'il se repent. Il se serait alors débarrassé des Babyloniens comme il l'avait fait dans le passé des armées assyriennes. Malheureusement, les Israélites persistèrent dans leur rébellion et la nation fut détruite. Comme précédemment, le 20e chapitre est une récapitulation de l'histoire d'Israël. Mais au lieu de considérer son ingratitude, ici c'est la fidélité inlassable de l'Éternel qui est mise en avant. Chaque désobéissance d'Israël, qui aurait dû amener son châtiment, fut au contraire suivie d'une manifestation de la bonté divine, et il en sera de même dans l'avenir, après la captivité. Je commence à lire ce chapitre 20. Le 10e jour du 5e mois de la 7e année, quelques responsables du peuple d'Israël vinrent consulter l'Éternel. Ils s'assirent devant moi. Alors l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. « Fils d'homme, parle aux responsables du peuple d'Israël et dis-leur, « Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Vous osez venir me consulter. Aussi vrai que je suis vivant, je ne me laisserai pas consulter par vous. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Fils d'homme, porte un jugement sur eux. N'hésite pas à le faire. » Dénonce les actions abominables que leurs ancêtres ont commises et dis-leur. Versets 1 à 4. Nous sommes le 14 août 591 avant Jésus-Christ. Tout comme dans les chapitres 8 et 14, Dieu parle par son prophète au moment où les chefs du peuple viennent le consulter. Nous ne savons pas ce qu'ils viennent demander, mais on peut être sûr que ce n'est pas au goût de l'Éternel, puisqu'il refuse de se laisser interroger. Pourtant, il leur répond quand même en leur rappelant combien Israël, lui a été rebelle tout au long de son histoire. Le peuple commence à réaliser que Dieu va vraiment le juger, mais il se plaint disant que ce n'est pas juste. Ézéchiel doit donc les confronter une fois encore concernant leurs actions abominables. Dieu ne se lasse pas de répéter les mêmes choses. Le prophète prend ici le rôle du procureur et présente un foudroyant réquisitoire contre Israël. Je continue en compressant. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai prêté serment envers les descendants de Jacob. Ce jour-là, je leur ai promis de les faire sortir d'Égypte pour les amener dans un pays ruisselant de lait et de miel. Je leur ai dit alors, ne vous souillez pas avec les idoles de l'Égypte, je suis l'Éternel, votre Dieu. Mais aucun d'eux n'a abandonné les idoles de l'Égypte. Je me proposais alors d'assouvir ma colère contre eux en Égypte. Mais j'ai agi par égard pour ma renommée, pour que je ne sois pas méprisé par les nations parmi lesquelles ils habitaient. Versets 5 à 9. Depuis toujours, Israël est coupable d'idolâtrie et sa sortie d'Égypte n'a rien changé. Je continue en compressant. Je leur ai donné mes lois, je leur ai aussi fait don de mes jours de sabbat pour qu'ils sachent que moi, l'Éternel, je les consacre à moi-même. Mais la communauté d'Israël s'est révoltée contre moi dans le désert. Ils n'ont pas vécu selon mes lois et ils ont rejeté mes commandements qui font obtenir la vie à celui qui les applique. Ils ont constamment profané mes jours de sabbat. Je me suis proposé alors de déchaîner ma colère contre eux dans le désert pour les exterminer, mais en les voyant, j'ai eu trop pitié d'eux pour les détruire. Aussi je ne les ai pas exterminés dans le désert. Cependant, j'ai dit à leurs enfants dans le désert, « Ne suivez pas les principes de vos pères, n'appliquez pas leurs lois et ne vous souillez pas avec leurs idoles. » Mais les fils aussi se sont révoltés contre moi. Versets 10 à 21. Tous les 6 jours, le sabbat rappelait aux Israélites qu'ils adoraient le Dieu unique, créateur et distinct de sa création. Mais ils l'ont violé. Au lieu d'en finir avec ce peuple rebelle, Dieu épargna la génération suivante afin d'en tirer un nouvel Israël. Mais lui aussi fut rebelle. Je continue plus loin. C'est pourquoi je leur ai donné des lois qui leur étaient funestes et des commandements qui ne pouvaient pas les faire vivre. Je les ai souillés par leurs offrandes quand ils sacrifiaient tous leurs premiers-nés pour les frapper de stupeur afin qu'ils reconnaissent que je suis l'Éternel. Versets 25 et 26. Ces lois funestes sont un acte de jugement par lequel l'Éternel a livré son peuple infidèle à ses penchants naturels et aux pratiques païennes auxquelles il était enclin. La loi qui devait conduire les Israélites à la vie s'avéra une loi qui les condamnait à mort à cause de leur désobéissance. Dieu avait ordonné qu'on lui consacrât les premiers-nés en payant une somme d'argent pour leur rachat. Mais une fois livrés à l'idolâtrie, les Israélites exécutèrent cette ordonnance à la façon des peuples païens en sacrifiant leur premier-né au dieu Moloch, ce qui était une monstrueuse caricature de la consécration que l'Éternel avait demandée. Aujourd'hui, la bonne nouvelle de Jésus-Christ joue le même rôle que la loi. L'apôtre Paul écrit « Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. » Fin de citation. Il est bien préférable de ne jamais avoir entendu parler de Jésus-Christ plutôt que de le rejeter. Je continue le texte en compressant. « Vos ancêtres m'ont outragé par leur rébellion contre moi. Je leur ai demandé alors, c'est pourquoi ce haut lieu où vous allez ? Et ce nom de haut lieu a subsisté jusqu'à ce jour. » Versets 27 à 29. Un haut lieu est une simple colline, mais c'est là que les Israélites s'adonnaient à l'idolâtrie. En hébreu, haut lieu est composé de 2 syllabes. Ba, ma, qui signifie « il est allé, faire quoi ?» En jouant sur ce mot, le prophète veut y attacher un sens accusateur. Désormais, chaque fois qu'on prononcera « ba, ma », c'est-à-dire au lieu, c'est comme si Dieu lui-même disait « Que vas-tu faire là-haut ? » Je continue le texte en compressant. « C'est pourquoi, dit à la communauté d'Israël, ne vous souillez pas en suivant le chemin de vos ancêtres, ne vous prostituez-vous pas avec leurs idoles. Le rêve qui hante votre esprit ne se réalisera pas, car vous dites « Nous voulons être comme les autres nations, comme les peuples des autres pays. Nous voulons aussi rendre un culte à des dieux en bois et en pierre. Versets 30 et 32. La génération contemporaine d'Ézéchiel continue dans la voie idolâtre de ses pères. Pire, elle met le comble à son infidélité en nourrissant l'espoir coupable de pouvoir se confondre avec les païens qui l'environnent et donc de renoncer à sa position privilégiée de peuple de Dieu. Ézéchiel a formulé ici la pensée secrète d'un bon nombre de juifs modernes. Cette attitude rappelle Israël dans le désert qui se plaignait que Dieu l'avait fait sortir d'Égypte et qui demandait à y retourner. C'est comme le croyant qui, las des obligations de la vie nouvelle, désire secrètement repasser la barrière qui l'a séparé du monde afin de pouvoir se livrer sans scrupule aux vices de notre époque. Ce comportement est un outrage suprême à Dieu qui choisit son peuple d'entre tous les hommes.